Interview.
2 jours.
Vous écoutez RDWA sur le 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr avec dans le studio une partie du collectif Gare à nous. Bonjour.
Et oui, gare à vous.
Bonjour.
Bonjour.
On a souvent parlé sur cette antenne à la fois de Gare à nous, mais évidemment de ce qu'on appelle l'étoile de Veynes. Pour resituer un peu, c'est cette ligne qui nous traverse avec un train de temps en temps. Et Gare à nous, pour protéger la gare d'Audi notamment et d'autres espaces. Qui êtes-vous alors ?
On est un collectif de citoyens qui s'est monté l'année dernière après avoir eu une information qui venait des agents qui bossent à la gare sur la supposée fermeture du guichet qui allait intervenir en juin, juste après. Donc en juin 2018, il y avait dans les cartons de la SNCF la fermeture du guichet. Donc on s'est réunis à quelques habitants et on a créé ce collectif pour mener une première action le 6 avril 2018, justement sur cette question de la sauvegarde de notre guichet, suite à déjà pas mal d'attaques qui avaient eu lieu sur la ligne avec la baisse notamment du nombre de trains et des remplacements par les bus, quoi.
Les guichets de Saillant et de Lucandiwa sont déjà fermés depuis un moment. C'est donc de ça dont on parle. Plus de vente de tickets sur place, plus d'agents pour guider.
Ouais, on considère que la présence humaine à un guichet, c'est un acte de service public assez fondamental. C'est-à-dire que bien sûr qu'on va nous dire qu'on pourrait acheter des billets sur Internet. Mais on sait très bien que Internet, tout le monde n'y a pas accès et tout le monde n'a pas forcément les compétences ou les habitudes technologique suffisante pour trouver sa pratique et utile. Donc on considérait que c'était une première attaque sur cette ligne et que c'était le début de d'autres, et on a eu assez raison puisque très vite on s'est rendu compte qu'il y avait aussi des travaux qui étaient prévus mais non, qui n'étaient pas financés. Et puis voilà, si on continue à dérouler toute l'année passée, en fait ça n'a pas arrêté et on se rend compte qu'en fait on est plutôt une sorte de veille citoyenne. C'est-à-dire que à peine un combat est-il déjà effleuré qu'un autre se superpose, et que c'est à peu près c'est la vie d'un collectif, mais que heureusement qu'en fait sinon je sais pas dans quel état serait le service sur notre ligne depuis un an s'il n'y avait pas eu un collectif citoyen qui avait un peu remué tout le monde.
Je pense que c'est vraiment ça la question à se poser. On est sur un territoire rural et qui a vraiment des grands besoins en mobilité, que le train est encore cette perfusion essentielle pour notre territoire, pour qu'il puisse continuer à vivre. Et on se rend compte que si on n'était pas là, on peut compter sur personne. Les élus régionaux qui sont de cette majorité qu'on en charge normalement la mobilité, normalement les trains, font rien pour défendre les habitants de la vallée, parce que c'est une ligne, mais on y reviendra, qui est gérée par la région PACA, parce que c'est une ligne interrégionale. Et donc, il faut bien qu'il y ait une des deux régions qui la gère. Là, pour le coup, c'est PACA et une région Auvergne-Rhône-Alpes qui ne joue pas le jeu de la veille pour maintenir les droits et les besoins essentiels des habitants de sa région. Et donc, une obligation pour les usagers, pour les citoyens, d'être en veille et de se spécialiser de plus en plus sur la connaissance de ce qu'est le transport ferroviaire, les différents niveaux de responsabilité pour pouvoir intervenir au mieux auprès des responsables politiques et de se mobiliser d'une manière assez forte, que ce soit par des manifestations, par des pétitions, pour maintenir la pression, mais juste pour maintenir ce qu'on a et ce qu'on a et n'étant pas suffisant. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on aimerait, c'est qu'ils nous laissent tranquilles à un moment pour qu'on puisse commencer à travailler aussi sur du mieux et sur des solutions qui nous apportent du mieux plutôt que de continuer à lutter sans cesse pour garder ce qu'on a et qui n'est pas suffisant aujourd'hui.
aux auditrices, auditeurs qui peut-être découvrent ce combat, d'abord il a une histoire, si vous en aviez quelques éléments ça serait intéressant de le redire, et puis on va la situer géographiquement, hein, c'est la mythique ligne Paris-Briançon d'une part, et donc effectivement elle traverse la région Rhône-Alpes et elle finit en région PACA qui en a besoin, hein, pour desservir notamment ses stations de ski, et on a plus, de manière plus réduite, le fameux Roman Gap qui a été coupé aussi dans le courant de l'année dernière et qui là a marqué quand même concrètement les habitants puisque c'était un des trains du quotidien, lui-même aussi du coup géré par cette région PACA. Donc voilà, ça c'est pour l'aspect géographique. L'historique quand même, ça fait très longtemps qu'on se bat sur cette ligne.
Alors cette ligne, elle a été créée en 1894, donc c'est une des premières lignes françaises, hein, mais comme beaucoup de lignes de proximité, elles étaient construites un peu tout en même temps. Il y a eu une effervescence avant la création de la SNCF, avec plein de petites compagnies privées qui créaient leurs lignes, avec d'ailleurs des écartements de rails différents, c'est ce qui explique que certaines ont disparu et d'autres sont restées. Et puis la Seconde Guerre mondiale a fait le tri aussi. Et elles étaient toutes déficitaires. Donc en fait, c'est la SNCF qui a repris en gérance l'ensemble de ces lignes et qui en a fait un réseau unifié tel qu'on l'a connu, puisqu'on ne peut plus dire qu'il soit forcément unifié maintenant. Et donc voilà, ça existe depuis quand même quasiment 130 ans. Et très vite, en fait, il y a eu cette ligne a servi à la fois pour le fret, comme ligne de proximité pour la vallée de la Drôme, et comme grande ligne pour aller effectivement des grandes villes aux stations des Alpes, donc à Briançon. Elle a connu de multiples péripéties, puisqu'il y a aussi pendant 25 ans, la ligne a été fermée aux trains de proximité. Il n'y avait que la ligne...
Paris-Briançon,
il n'y a plus eu de fret depuis un bon petit moment. Donc ça a été un combat, hein, qui, voilà, on n'arrive pas comme des fleurs. On sait très bien qu'il y a déjà eu beaucoup de luttes pour que ces quelques liaisons ferroviaires par jour existent, puisque c'est pendant 25 ans, de 60, si je ne me dis pas de bêtises, 72 à 98, il n'y a plus eu de TER, alors que ça existait avant. Et c'est ce collectif Ligne de Vie, Ligne de Dit, créé par la CGT de Livron à l'époque, qui a lutté, qui a organisé des manifestations à vélo, donc on voit déjà un lien entre les modes de déplacement doux et les modes de déplacement collectif qui étaient créés. Et voilà, et petit à petit, à partir de 98, il y a eu une phase de test, puis après ils se sont rendus compte que ça marchait un petit peu, et petit à petit le TER est revenu et redevenu légitime, et puis maintenant on se rend compte qu'en fait il y a un enjeu quasiment crucial et vital, puisque dans notre époque où il y a des enjeux climatiques globaux qui nous... Qui sont primordiaux, de redévelopper les transports collectifs et doux, ça nous semble, c'est même plus essentiel, c'est devenu vital. Ouais. Strain, this train is bound to glory. This train, talking about my, this train is bound to glory. This train is bound to glory. This train carry no one holy. This train I'm a talking about. This train, when I was just a kid, my mommy used to sing this song. Now I've grown to be a man. Well, it still lingers deep down in my soul. I said it lingers deep down here in my soul. I'm talking about this train is bound to glory. This train is bound to glory. This train is bound to glory. Oh, this here train carry no one holy. This train I'm a talking about. This train. This train don't carry no gambles. This train don't carry no gambles. This train don't carry no gambles. No hypocrites, no midnight ramblers. This train don't carry no gambles.
gambles this train. This train is built for speed. Now this train is built for speed. Now this train is built for speed. Now the fastest train you ever did see. Now this train is built for speed. Now this train is bound for glory. This train is bound for glory. This train is bound for glory. Don't ride nothing but the riders and the holy. This train is bound for glory. This train. Liars, this train don't carry no liars. This train don't carry no liars, no hypocrites, no easy riders. This train is bound for glory.
Passer justement à ces nouveaux modes, hein, de nouveaux ou anciens modes, meilleurs modes de déplacement. Le train en fait partie, évidemment. Je parlais tout à l'heure de l'étoile de Veynes. Est-ce que ce n'est pas directement plutôt l'étoile de Veynes qui est visée, la région PACA qui est en train de réfléchir à restructurer ou carrément supprimer ses trains, puisque la ligne Grenoble, Sisteron, enfin Veynes, qui passe par là, elle aussi est impactée. On a l'impression qu'en fait, ce combat ne dépend pas de cette petite vallée de la Drôme sur cette ligne.
En fait, le combat, il n'est pas que sur cette branche de l'étoile de Veynes qui nous concerne aujourd'hui, celle de la vallée de la Drôme. Cette branche-là, c'est presque la branche la mieux lotie, c'est pour dire, de l'étoile, puisque il y a des intérêts autres que les intérêts des habitants, c'est-à-dire des intérêts économiques et notamment liés à l'industrie du ski, qui font que on a la garantie que le train de nuit va rester actif.
Donc les rails seront toujours là, quoi.
Donc les rails devraient être là et pas remplacés par des bus ou une piste cyclable ou une voilà ou une voie rapide pour des bus. Qui pourrait faire la liaison entre Valence et chez nous sur une voie dédiée, par exemple. Donc, les intérêts économiques, ils dépassent l'intérêt des habitants de nos zones rurales, d'arrière-pays, voire d'arrière-arrière-pays. Et c'est bien là le problème, c'est qu'on n'est rien par rapport à ces grands intérêts, mais qu'aujourd'hui, on sait que notre ligne va avoir des travaux qui sont programmés sur l'année prochaine, puis sur l'année d'après, pour justement rénover les traverses, les rails, etc. Parce que cette ligne est nécessaire à l'industrie du tourisme. Mais derrière, nos copains de l'Étoile de Veynes, nous, on est très en lien avec le collectif de l'Étoile de Veynes parce que notre combat est le même sur la même étoile. Et aussi parce que certains membres du collectif aujourd'hui d'IWA ont commencé à militer du côté du Trièves il y a quelques années. Donc ça nous permet de faire ce lien aussi. Et puis que cette ligne de Grenoble, on n'est pas tant sur la question de la fermeture. On n'est pas tant sur une volonté de la région de fermer à tout prix. Le souci est de savoir qui doit payer des rénovations qui aujourd'hui se chiffrent à des dizaines de millions d'euros parce que c'est une ligne qui date effectivement du plan Fraissinet. Donc le plan qui, à la fin du 19e siècle, a permis à chaque sous-préfecture d'être accessible par train, qu'on a des ouvrages d'art qui ont plus de 120 ans, qu'on a des traverses, des rails qui, sur la ligne de Grenoble-Veynes, à lire d'ailleurs l'excellent article de, du Dauphiné de la semaine et le grand format de France Info qui a été fait là en début de semaine aussi, des traverses et des rails qui ont plus de 70 ans. Il y a un moment, ça coûte un pognon de dingue, comme on dirait l'autre. Mais ce pognon-là, il est nécessaire pour qu'on puisse continuer à vivre dans nos régions. Donc le combat, il est global. Il faut juste aujourd'hui que l'État, les deux régions, les collectivités qui sont traversées aussi par ces trains se mettent d'accord sur qui paye quoi.
Ouais, donc ça n'a pas de sens que notre ligne fonctionnerait bien et que les lignes autour ne fonctionneraient pas, puisque le principe même du train, c'est un réseau où les lignes sont connectées les unes aux autres. C'est-à-dire que si notre train fonctionne mais qu'il n'est pas relié correctement à Valence ou à Vennes ou à Briançon, à quoi sert notre ligne de train ? À peu près à rien.
C'est ça, et d'ailleurs, l'image, elle est simple. Nous, on est une étoile de terre. Quand on coupe une branche, elle ne repousse pas, hein, même si l'autre à côté, elle vit. Hein. Donc il faut vraiment que toutes nos branches fonctionnent pour que l'ensemble des trains dans la région soit viable et puisse rendre service à tous les habitants.
C'est-à-dire qu'il y a plutôt, on est sur un modèle français qui est très centralisé, ça c'est pas nouveau, c'est pas original, mais qui privilégie la vitesse, c'est-à-dire à certains endroits, l'extrême grande vitesse, tandis que d'autres pays proches ont fait le choix de l'efficacité d'un réseau et pas le choix de la vitesse. C'est-à-dire qu'on n'attend pas en gare, que les réseaux sont coordonnés, que les fréquences sont rapides, qu'il y a plein de types de trains différents, et que tout ça s'est coordonné dans une logique de service public, que ce soit une délégation de service public ou un opérateur national. Et on pense qu'il faudrait se poser la question en ces termes. Est-ce que vraiment, d'avoir un immense train qui est parfois trop plein et parfois trop vide, ça sert à quelque chose ? Est-ce qu'on ne peut pas avoir des rames de contenance différentes ? Est-ce qu'on ne peut pas associer du fret à du service voyageur, de la livraison de colis postaux, etc. Comme ce qui peut se faire, par exemple, en Suisse. Donc il y a vraiment une logique de service public qui n'est plus... Qui est plus efficiente, qui fonctionne plus. C'est-à-dire que ça a de service public que le nom et ça ne rend plus service beaucoup au public.
On a entendu ça et là les collectivités locales de type communauté de communes, les grandes associations de type Biovallée se lancer dans un discours propre au déplacement doux, à essayer d'impulser quelque chose. Voilà, le président de la communauté de communes du Diois a pris parti là-dessus, hein, il y a un moment donné. Donc ça veut dire que globalement, cette vallée a envie. Donc, est-ce qu'ils sont soutiens réellement ? Est-ce que ce n'est pas justement un moyen de pression auprès de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour relancer quelque chose ?
Là, ce qu'on peut dire sur le soutien des collectivités territoriales, c'est qu'il est assez total, les collectivités territoriales proches. Donc, les mairies, les communautés de communes qui sont traversées par l'étoile de Vennes. Alors, il y en a trois sur la vallée. Il y en a beaucoup plus sur l'ensemble de l'étoile de Vennes. Et toutes ont des programmes, justement, de soutien aux initiatives locales, qui sont un programme qui est financé par la communauté européenne, donc le programme LEADER. Et pratiquement toutes se sont mis d'accord sur un programme de coopération, justement, pour travailler à des études, mettre des moyens à des études sur comment valoriser ces lignes de train, comment en faire un atout supplémentaire pour la région. Et là, on peut quand même noter depuis un an que, quelle que soit la couleur politique des élus, quand on les mobilise sur cette question du train, ils répondent présents, en tout cas les maires, les conseillers départementaux, les conseillers régionaux, les présidents de communautés de communes ont toujours répondu présents sur la défense de ce train. Et ça, c'est vraiment intéressant. Après, voilà, restent les discussions entre les vrais décideurs que sont les deux régions et l'État.
Oui, en fait, on essaye juste de retrouver une autre place, c'est-à-dire la place des élus locaux et la place des citoyens dans une chaîne de décision qui met en scène l'État. La SNCF avec ses multiples entités, SNCF Réseau, SNCF Mobilité, ceux qui s'occupent des rails, ceux qui s'occupent des rames, ce n'est pas les mêmes, et les deux régions qui ont en cogestion la ligne. Donc en fait, on se rend compte qu'il y a eu aussi un grand problème démocratique, c'est-à-dire que les élus locaux et les citoyens, ils n'ont plus leur place dans cette chaîne de décision, alors que c'est censé être un service, comme on l'a dit, public. Et c'est à nous de jouer des coudes et de pousser un peu les murs.
Ah là, il y avait un comité de ligne avant.
Bah voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. Les comités de ligne étaient vraiment des lieux importants qui réunissaient élus, usagers, représentants de la région et représentants de la SNCF. Et donc, ça permettait vraiment de mettre, quelques fois par an, l'ensemble de ces personnes autour du fonctionnement des lignes et puis de demander d'avoir vraiment un endroit où la parole était recueillie, entendue et pouvait permettre de faire évoluer les choses.
Qui l'a arrêté ?
C'est quand Laurent Wauquiez est arrivé à la tête de la région que les comités de ligne ont disparu. Voilà.
Donc au-delà de ce que tu disais tout à l'heure, qui était que même ils n'avaient pas pris, joué des coudes avec la région PACA pour dire « Attendez, quand même, vous ne fermez pas, c'est notre ligne, on y est aussi », en plus de ça, ils avaient clairement déjà, donné la tendance en arrêtant les comités de ligne.
En tout cas, ils ont donné une tendance de « on va décider tout seul ». Et ce qui nous oblige aujourd'hui à mettre la pression d'une manière autre, si on avait des cadres réguliers, on ne serait pas obligé de faire des pétitions, d'aller intervenir en happening dans des réunions qui ne sont pas forcément sur la thématique de la mobilité. Oui, surtout, surtout quand on distribue des avis de décès de Laurent Wauquiez. Effectivement.
Bravo.
Il y a eu des moments assez beaux. Le happening, c'était pas que nous, c'était aussi dans la salle. Des mouvements de recul quand le petit faire-part de décès de la ligne, où les gens pensaient que c'était un faire-part de décès de Laurent Wauquiez, découvraient ça à l'entrée de la réunion publique. Il y avait des petits...
Oh non.
Et dommage, on n'avait pas de caméra.
Ouais, c'est vrai.
Bon, ça marche du coup. Est-ce que vous êtes entendu là?
On est plutôt entendu. Ouais, on va dire que...
Faire du Macron, on renoue le dialogue. Avec ça. Les partenaires
vous
institutionnels.
Vous libérez les esprits.
On libère les forces, on libère les énergies.
D'accord. Oui.
Et en même temps... Et en même temps, ça nous demande beaucoup d'énergie parce que plutôt que d'avoir un comité de ligne qui est décentralisé sur les territoires, on a des obligations d'aller effectivement à la région... pour discuter avec la vice-présidente au transport. Donc, on a été deux du collectif à monter en février, avec des galères de TER, d'ailleurs, au passage, pour y arriver. On est arrivé une heure en retard et autres. Donc, c'est assez amusant.
Vous n'êtes pas allé en bagnole, quoi.
Non, on n'y est pas allé en voiture. De la même manière qu'en décembre, pour la réunion qu'il y avait à Livron, on n'y est pas allé en voiture non plus, ce qui faisait qu'on avait un créneau de 45 minutes pour intervenir. Et donc, en fait, on a un peu joué des coudes pour pouvoir intervenir, pour pouvoir avoir le temps de reprendre notre train en retour. Sinon, on y passait 4 heures, puisque les liaisons ferroviaires sont quand même loin d'être satisfaisantes à certaines heures de la journée sur notre vallée. Donc oui, le en même temps, et on se mobilise et en même temps, on renoue le dialogue. On est reconnu comme interlocuteur. Maintenant, on réintervient là cette semaine justement, parce que ça fait 2 mois qu'on a eu ce rendez-vous avec la région. On réintervient cette semaine et on les réinterpelle par lettre. La vice-présidente au transport de la région Auvergne-Rhône-Alpes et celui de la région PACA pour leur demander si les annonces qui nous ont été faites en février, c'est-à-dire le retour d'un train le matin et le soir payé par la région Rhône-Alpes pour remplacer le TER sur lequel on s'est fortement mobilisé l'année dernière.
Roman Gap. Ouais,
voilà, le Roman Gap. Si ce train va bien revenir au 30 août, comme on nous l'a annoncé le 13 février.
Moi, j'aime mieux le train. Mais enfin que voit-il du paysage? Il risque de rentrer dans un mur et de ne plus jamais faire de voyage. Moi je prends une couchette et je me mets à la fenêtre du compartiment. Et je pense à ton sourire, à tes lèvres tout en somnolant. Mais enfin que voit-il le paysage? Il risque de de s'écraser un jour et de ne plus jamais faire de voyage. Moi je fume des cigarettes et je mange des alouettes au wagon restaurant. Et je pense à ton regard plein de soleil tout en somnolant.
Toujours avec le collectif Gare à nous, on parlait donc de cette ligne. Tout à l'heure, il a été cité Livron. Gare à nous est un collectif basé à Die. Y en a-t-il un à Creil ? Y en a-t-il un à Livron ? Puisque cette ligne, et on en connaît un à Vennes. Y en a-t-il un dans chaque, j'allais dire, grande gare, tout au long de cette étoile, de part et d'autre ?
Alors, on a des usagers qui se mobilisent un peu tout le long, des usagers qui sont autour de la FNOT, qui est la Fédération nationale, justement, pour les usagers du train. On a un collectif d'usagers sur Creil. On a Dromolib aussi qui intervient.
Déplacement doux. Hein.
Voilà, ouais. sur les déplacements autres que la voiture. Mmh. Et puis aussi, pas mal d'habitants et d'élus de Saillant qui sont mobilisés sur cette question, qui ont été vraiment très mobilisateurs, notamment sur la signature de la pétition, parce qu'à Saillant, on a déjà ce qui pourrait arriver rapidement sur 10 si on ne s'était pas mobilisé, c'est-à-dire une fermeture de guichet, et puis la question de trains qui ne s'arrêtent plus, parce que la gare ne s'est pas adaptée aux nouveaux trains. Il y a des trains qui sont plus longs, puisqu'ils ont des rames supplémentaires. Les quais ne sont pas suffisamment longs pour pouvoir accueillir ces trains. Et donc, la SNCF, les TER, voilà, a décidé
plus,
que, voilà, non, ils ne s'arrêteront plus parce que c'est dangereux s'il y a une rame qui est en dehors du quai. Donc, en fait, il y a moins de trains qui s'arrêtent à Saillant, ce qui est un vrai scandale, quoi.
On parle d'une pétition qui était contre la suppression d'un horaire d'un train essentiel de la ligne, le Roman Gap, qui a obtenu plus de 5000 signatures en quelques semaines. Faut savoir qu'a priori, donc c'est ce train-là qui serait remis le 30 août. Mais voilà, quand on parle de la pétition, en fait, il y a déjà eu pas mal de pétitions, mais la pétition la plus emblématique de notre combat depuis un an, c'est celle-ci. Et elle s'est accompagnée, voilà, de sorties publiques du collectif, de lettres d'élus à la vice-présidente au transport. Et voilà, cette suppression était emblématique de tous les dysfonctionnements, en fait, sur la ligne, puisqu'après, il y avait évidemment pas que ça, puisqu'il y a aussi des horaires qui ont été déplacés qui ne correspondaient plus aux besoins des Diwa. Je me permettais. Hein.
Alors, concernant ces enjeux, justement, alors là, on parle de cette ligne au 30 août. Ça veut dire quoi, là, pendant ce temps, cette période, là, maintenant, il faut continuer à maintenir la pression ? Il faut obtenir les dates précises des travaux ? Qu'est-ce qui va se passer ?
C'est vraiment ça qu'il faut faire. Parce que l'année dernière, quand on s'est rendu compte, à la fin août, début septembre, de la suppression sur la nouvelle grille horaire qui allait rentrer en jeu au 10 décembre, la suppression donc de ce TER, on est tout de suite intervenu auprès de la députée, des sénateurs, de la région, en disant « mais non, c'est pas possible, il reste 3 mois, maintenons cet horaire ». Et on s'est rendu compte de toute la mécanique qu'il y avait derrière dans la gestion des lignes SNCF. Les horaires qui vont changer au 10 décembre prochain, ils sont discutés en ce moment et validés en ce moment-là, avant la fin du mois de mai, par la région PACA. Ils sont envoyés à la région Auvergne-Rhône-Alpes pour avis. Et ensuite, s'il n'y a pas d'avis négatif, ils sont inscrits dans le marbre et c'est juste impossible de revenir dessus. Donc c'est exactement ce qui s'est passé l'année dernière. PACA qui décide de déplacer un train sur un horaire qui correspond mieux aux attentes des habitants de la région PACA, qui ne correspond pas du tout. Ce qui est logique de leur part, ce qui aurait été logique, surtout, c'est que la région Auvergne-Rhône-Alpes dise bah non, le train que vous déplacez là sur un autre horaire, en fait, nous, c'est le train qu'utilisent les personnes, les salariés qui travaillent sur Romans et sur Valence pour rentrer dans le Diwa à une heure descente. C'est le train qu'utilisent les lycéens de Cré pour rentrer sur Die, non, etc.
D'accord. Voilà. Alors, je vais taper dessus, mais excuse-moi, s'il est mieux pour la région PACA, enfin, c'est-à-dire que les gens dans le Gapensé peuvent dire pareil, mais enfin merde, ce train nous sert à rien.
C'est pour ça qu'il faut qu'ils discutent. En fait, le problème qu'il y a eu, c'est qu'il n'y a pas
eu
de discussion.
On ne peut pas dire l'un ou l'autre. Enfin...
Ah, on ne peut pas dire l'un ou l'autre, on peut dire l'un et l'autre, justement, parce qu'il y a un moment... Voilà, c'est là que
en même temps... Donc on multiplie les trains.
On multiplie les trains comme ils sont multipliés dans plein de régions en Europe, où effectivement, on a des régions comme les nôtres, rurales, de montagne, qui sont en lien avec des agglomérations, qui ont décidé, qui ont fait le pari de la réouverture des petites lignes, d'un cadençage plus important, de tarifs beaucoup plus accessibles, et où on voit des lignes qui étaient même fermées, être réouvertes, être plébiscitées par les habitants, avoir 1 million de passagers par an. Ça, c'est les chiffres qu'on a pour des petites lignes qu'il y a en Allemagne, qu'il y a dans le Tirol, autour de Bolzano en Italie. Des lignes qui servent vraiment aux habitants. Et on sait que ça marche. Aujourd'hui, si la ligne était accessible financièrement, elle serait plébiscitée par les habitants, parce que c'est tous autour de la table. Ça nous arrive quand même d'aller à Valence. C'est quand même un peu la galère et un peu long d'y aller en voiture. Et c'est tellement plus agréable en train par rapport à justement ces bus de remplacement qu'on nous a mis à la place notamment de ce train qui a été le dernier à être supprimé. Mais avant, de 98 à aujourd'hui, donc 98, le retour du train. Mais quelques années plus tard, des trains qui ont commencé à être supprimés pour être remplacés par des bus. La pression qu'on a mis à la fin de l'année dernière a fait que la région Auvergne-Rhône-Alpes a mis un bus de substitution, notamment pour permettre aux lycéens qui sont internes de rentrer vers la région PACA plus facilement le vendredi. Mais on sait très bien que les bus, ce ne sont pas les trains. On sait très bien que les bus, quand on remplace un train par un bus, il y a moins de personnes qui les prennent.
Oui, et tu parlais des cadencements. Alors, voilà, moi, j'ai discuté avec des agents SNCF la semaine dernière qui m'expliquaient que souvent on leur oppose le fait que cette ligne, c'est une vieille ligne, que les trains ne peuvent pas se croiser et que ça serait compliqué de mettre plus de trains. C'est souvent la réponse automatique que font la SNCF ou les deux régions concernées quand on leur dit qu'il n'y a pas assez de trains. Donc eux, ils se sont amusés à calculer combien de trains, quelle cadence on pourrait mettre sur cette ligne en l'état. Et ils arrivent à quand même un truc. Là, on est à 5 allers-retours par jour à peu près. Ils expliquent qu'on pourrait avoir un train dans les deux sens toutes les 20 minutes. Mais donc on est assez loin du potentiel
ça va,
de la
quoi.
Ligne.
Quoi. En fait, ça va.
Non, mais, et c'est toujours pareil quand on commence à parler, quand on commence, nous, à devenir experts de ces questions, on ne peut plus nous enfumer. Sur ces petites lignes, c'est le cas. On est en lien avec les syndicats, avec ceux qui travaillent dans les gares. Donc, on commence à avoir un peu d'informations. Mais on peut voir aussi faire le transfert de cette idée-là sur des grands projets type le Lyon-Turin. Mmh. On essaie d'un autre côté de nous vendre le Lyon-Turin avec des milliards d'euros qui seraient investis là-bas sous prétexte qu'il y en a besoin pour faire du fret et du déplacement vers l'Italie. Sauf qu'il y a une ligne, on le sait, qui est au même endroit, qui passe juste au-dessus de la montagne plutôt que de la traverser et qui est sous-utilisée. Et ces milliards qui sont aujourd'hui plébiscités que l'État veut dépenser, que la région veut dépenser sur le Lyon-Turin, et ben c'est justement cela dont on aurait besoin pour rénover la ligne des Alpes, l'étoile de Veynes, pour que ça bénéficie aux habitants plutôt que ça bénéficie à une ligne à grande vitesse qui fera en plus pas gagner beaucoup de temps entre Lyon et Turin. Donc il y a un moment, on est aussi les vigies de l'utilisation correcte des deniers publics. On a besoin de cet argent. Il faut le mettre sur les petites lignes plutôt que sur des grands projets inutiles.
J'entendais parler tout à l'heure de l'exemple suisse. On pourrait l'évoquer un peu parce qu'il est quand même très intéressant.
Oui, alors on pourrait... Peut-être on regarde son contre-exemple qui est l'exemple anglais.
Britannique. Aïe, aïe, aïe.
Et voilà. Alors, des deux côtés, ce qui est intéressant, c'est que...
Les deux extrêmes.
Les deux extrêmes. Et en même temps, pas tant, puisque ça part du... Des deux côtés, on a beaucoup d'entreprises privées qui gère le rail. D'un côté, on a le train-train néolibéral britannique tel qu'on le connaît depuis Thatcher. C'est-à-dire que les syndicats ont été cassés. Tout a été vendu à des opérateurs d'ailleurs français aussi. Hein, mais il y a la Deutsche Bahn, mais il y a aussi Veolia, SNCF qui ont des tronçons en gérance. Et c'est la politique du moindre coût qui gouverne. Et donc on se retrouve avec une ségrégation territoriale criante, ce qui nous menace ici. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des endroits où ça marche très bien, des endroits où ça ne marche pas. Mais surtout, ça ne marche surtout pas. C'est-à-dire qu'en fait, justement, l'intérêt du train, c'est d'être qu'une ligne soit connectée à une autre. Ça déconne complètement. On a des temps de trajet qui ne cessent d'augmenter sur certaines lignes. Et surtout, les lignes sont plus sûres, puisque tout est sous-traité, tout est pourri. Et les coûts explosent. C'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve avec certaines personnes qui doivent prendre leur train du quotidien, dont le billet a été multiplié par 6. Au niveau du tarif. Et parfois, un abonnement mensuel de travail correspond à 2 mois de salaire d'un citoyen britannique. Donc c'est le truc vers lequel on aimerait ne pas aller, même si c'est bien parti, hein, avec la privatisation du rail à la Macron. En tout cas, ce cas de figure est rendu possible par la nouvelle loi. Ça ne veut pas dire qu'on va forcément aller dans ce sens-là. De l'autre côté, on a la Suisse, hein, qui est... Alors on peut se dire, ah oui, la Suisse, il y a plein de sous. Et ils ne sont pas dans l'Europe. Mais en fait, après, on peut regarder la géographie de la Suisse, qui correspond à peu près à la géographie et à la taille de la région Aura, comme la nôtre. Et on va regarder aussi combien coûte le train par habitant. Et on va se rendre compte qu'en fait, par habitant, le train suisse coûte moins cher que nous, ce qu'on paye par nos impôts, nos taxes, etc. Donc comment ça se fait qu'ils ont un train super performant? Ben après, c'est un choix politique. Et là, c'est pour ça que nous, on est là aussi. C'est l'idée, c'est de politiser cette question des transports. Et ben voilà, depuis 70, ils ont fait un moratoire sur les autoroutes. Il n'y a plus d'autoroutes construites en Suisse. Et ils ont rendu les collectivités locales co-gérantes et co-décisionnaires de toutes les lignes, avec une charte de service public très forte. C'est-à-dire que ce soit des compagnies privées, semi-publiques, etc. Il y a une convention qui fait qu'en fait, elles ne peuvent pas faire n'importe quoi. Elles ne peuvent pas se faire concurrence sur la même ligne. Et on arrive à 50% des Suisses qui ont un abonnement de train, à une vraie culture du train qui s'est installée. Et puis, dans cette charte, il y a par exemple le fait qu'à partir de 500 personnes, la cadence horaire doit être la norme. Qu'à partir de... Alors là, c'est encore plus astronomique si on pense, par exemple, au fait qu'il y a 5000 habitants à 10. Hein, qu'à partir de 32 usagers par jour, c'est au moins 4 allers-retours. Donc nous, on est à 5000, on a 4 allers-retours. Donc entre 32, 5000, voilà. Et donc, ils doivent se débrouiller avec ça. Ben, comment ils font? C'est-à-dire qu'ils font ce qu'on a un peu dit tout à l'heure. Hein. Ils joignent du fret avec des services postaux, avec des services de transport de marchandises liés aux usagers du train.
Le train lâche quelques wagons comme ça au fur et à mesure de son trajet.
Exactement. Ouais, non, mais c'est presque ça. Hein. Ouais. C'est si vous l'avez déjà pris.
S'est vu à une certaine période. Je crois que ça se voit encore sur Die pour l'apport des bouteilles à Cave Jaillance, par exemple.
Voilà.
Ils larguent le wagon quelques mètres avant.
Et donc, on privilégie vraiment l'efficacité du réseau plutôt que la vitesse. Alors c'est vrai que c'est un territoire qui est petit, mais si on compare ça à une région, c'est à peu près la même taille. Donc on voit qu'il y a vraiment deux modèles possibles. Quoi, hein.
Et sur cet exemple, on voit justement que c'est bien la collaboration entre l'ensemble des collectivités territoriales et des décisionnaires qui est important pour que ça marche. Si ça marche aussi en Suisse, c'est que, en plus du moratoire sur les autoroutes, il y a cette interdiction pour certains tonnages de poids lourds de traverser la Suisse et d'être obligé d'être sur du ferroutage. Et donc, de fait, ça apporte un équilibre financier qui est important à avoir sur l'ensemble du réseau. Et je pense que nos collectivités, au vu de ce qu'elles ont commencé à faire autour de l'étoile de Veynes, du projet de coopération, elles sont prêtes à réfléchir, à prendre cette responsabilité.
Fermer les frontières aux camions
En Suisse, par exemple, il y a des endroits où ils ne les ferment pas. Par contre, ils mettent une taxe dès qu'on entre sur le territoire pour financer le transport public.
Ouais, c'est ça. Donc il y a différentes manières d'intervenir là-dessus. Mais effectivement, le coche qui a été loupé sur cette question du transport autoroutier et sur lequel la SNCF est complètement schizophrène, parce que c'est aussi...
C'est aussi un transporteur.
La SNCF est aussi un transporteur et son premier concurrent Voilà, Géodis qui appartient à la SNCF et le premier concurrent de la SNCF pour le transport des, du fret. Donc c'est quand même hallucinant. Et on a vraiment loupé quelque chose il y a quelques années avec la taxe carbone et tous ces portiques qui se sont installés partout en France et qui auraient permis justement d'avoir un réseau qui permettait de taxer les poids lourds pour financer les autres types de transport, quoi. Et aujourd'hui, c'est compliqué de revenir dessus pour l'État, mais ça va être indispensable et nécessaire.
Toute cette stratégie ici dans le Diwa, mais globalement dans le monde rural, on la connaît bien. Il n'y a pas que le service ferroviaire qui a pris un coup, ne serait-ce que pour parler de Di. Bon, on le rend bien pourri, on n'en a plus envie, et puis au bout d'un moment, on le ferme. C'est tout ça contre lequel vous vous battez. Enfin bon, il y a quelque chose. Il y avait la dimension politique, certes, pour aller amener des nouvelles idées, des nouvelles propositions, des modèles, peut-être d'exemples qui se passent ailleurs dans d'autres pays. Mais enfin bon, là, c'est pas la tendance, quoi. La ruralité est plutôt laissée de côté.
Bah, sur notre premier tract, il était écrit le territoire d'Iwa fragilisé. Voilà, c'était un constat. Et donc, il y avait vraiment l'idée tout de suite d'associer ce service public ferré fragilisé aux autres abandons étatiques. Donc là. On va pas faire une liste, sinon on a jusqu'à ce soir. Mais bon, voilà, on va parler de l'hôpital, on va parler de la poste, on va parler des emplois aidés, on va parler de plein d'autres choses. Et nous, on a envie de relier le train à ces autres trucs-là, parce qu'il y a une sorte d'effet cocktail, c'est-à-dire que les fragilités se complètent, se surajoutent, et le risque, c'est qu'à un moment, tout déconne. Et là, pour le coup, on est expert. Alors, on n'est pas forcément expert, on n'est pas la FNOT, on connaît pas en détail comment fonctionne la SNCF. On essaye de comprendre, mais par contre, on est expert de notre quotidien. Et on
expert sait, du démantèlement public.
On est, en tant public. Que Diwa, on est, expert, on est tous experts du Diwa. Et on sait très bien ce que ça fait, un service public qui déconne. On sait très bien que c'est insupportable d'aller à l'agence Pôle emploi en bagnole ou en train et d'attendre des heures. Et qu'en plus, parfois, voilà, on ne supporte pas ça. Ce n'est pas acceptable, en fait. Donc, c'est là-dessus qu'on se mobilise aussi. Et c'est aussi pour ça, je pense qu'on a un soutien presque total des élus locaux, parce qu'ils voient bien qu'on se situe dans une logique d'intérêt général. Notre intérêt, c'est l'intérêt général.
Comment on vous rejoint? Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi les prochaines actions? Et comment on s'inscrit, si on voulait militer?
Pour s'inscrire, c'est relativement simple. On a un site internet, on a des profils Facebook, Twitter, qui sont accessibles. Donc, garanou.org pour ce qui est du site web, ce qui permet d'aller sur l'ensemble des autres plateformes sur lesquelles on peut intervenir. On a une newsletter qu'on essaie de faire avec les moyens qu'on a. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que là, le collectif est composé vraiment de personnes qui ont d'autres activités à côté. Et donc, on n'est pas disponible à 100% pour cette lutte, alors qu'il faudrait qu'on soit beaucoup plus. Et on fait le maximum pour pouvoir se tenir informer les personnes qui veulent nous soutenir. Donc, on a sur le site web aussi la possibilité de s'inscrire à cette newsletter, voire de s'inscrire à la liste de diffusion plus restreinte, qui est celle qui permet d'être au courant de la préparation des actions. Et là, sur les prochaines semaines, ça va effectivement être cette pression à mettre sur les deux régions pour savoir si ce train au 30 août va être réellement remis et d'avoir des infos, avoir des infos complémentaires sur les calendriers des travaux. Parce que ces calendriers de travaux vont impacter la ligne. La ligne va être fermée un certain nombre de mois l'année prochaine, un certain nombre de mois encore plus important l'année d'après. Et nous, on a vraiment voulu maintenir la pression cette année, avoir une remise en marche du train là dès septembre et qui tienne jusqu'aux travaux pour que l'habitude du train ne se perde pas. Aujourd'hui, c'est vraiment aussi notre vrai combat. C'est qu'on arrête de s'habituer au bus. Et pour nous, l'important, c'est qu'on ait des trains.
J'aime les trains.
Allô, passe-mi ?
Oui, passe-moi, c'est moi !
Pourquoi tu hurles ? C'est quoi ce bazar derrière ?
Rien, je suis dans le car. T'as le bruit du moteur et après celui des gens qui râlent parce que je parle trop fort.
Voilà, je t'entends plus trop. Moi, je suis dans le train, entre deux rames. T'entends peut-être aussi un peu de bruit, mais pas de grognement. Pince-Mi, t'arrives quand? Moi, 16h22, il y a déjà 5 minutes de retard.
Ah bah, moi, je sais pas. On a du retard aussi, mais le car, on sait quand il part.
Ouais, enfin, t'arriveras bien avant moi au gîte, hein. Même avec mon nouveau vélo embarqué de gratos dans le TER. Ah, et d'ailleurs, t'as pas galéré, toi, avec ton vélo dans le car?
Bah si. J'ai pas pu le prendre, en fait. Les soutes du bus étaient pleines. Eh, week-end vélo sans vélo pour moi.
Non mais pense-moi si je rêve. Un week-end vélo et toi tu prends pas ton vélo. Et t'as perdu les pédales mon vieux. Ah, déjà la dernière fois t'as pas pu prendre l'appareil à raclette. Avec le TER t'aurais pas eu ce problème. Attends, je vais me rasseoir.
Et j'y peux rien moi, s'ils ont remplacé la plupart des trains par des cars. Ah et puis j'ai mal au cœur. Il sait pas conduire ce con. Puis j'aurais pas dû essayer de lire le bilan de Vauquier tout à l'heure. Ah c'est quoi ce bled? Ah bah c'est pas un bled. Ah c'est un arrêt pour quelqu'un qui vomit. Le bilan? Ah bah voilà, on repart. Ah bah non. Ah bah c'est quoi ce bouchon? Oh des travaux. Oh, c'est pas vrai. Ah, pince-moi, allô, t'es encore là?
Oui oui, attends, je suis revenu à ma place. Je coupe le film que je regardais. Hyper angoissant, trop bien. C'est sur l'état écologique de la planète. Et c'est vraiment la catastrophe en fait, hein. C'est génial, faut que tu vois ça.
Ça va, tranquille, tu te fais plaisir avec ton film. Moi, mon écran, c'est la fenêtre. C'est un film au ralenti avec que des voitures. Bon, et des fourmis dans les jambes. Je suis mal assis, j'en ai marre.
Ah t'inquiète, ce week-end, tu pourras dégourdir les jambes. Comme t'as pas de vélo, bah, tu pourras courir. Je plaisante. Tu iras acheter la raclette en nous attendant. Dis donc, c'est sympa la musique. Ambiance.
M'en parle pas. C'est la radio du chauffeur. T'as pas un truc pour me remonter le moral plutôt que de te foutre de ma gueule?
Allez, un peu d'entrain. Si tu veux, je te raconte mon film. Tiens, bah, par exemple, j'ai appris que tu polluais 3 fois plus dans ton car que moi dans mon train.
Super, merci. Je me sens vachement mieux. Ah, ça repart. Ah bah non, ça ralentit encore. Ah bah c'est un arrêt là, on s'arrête.
Ah bah moi je change de train. Dernière correspondance et j'y suis. Attends, je prends mon vélo. Oh putain, il galère quand même. On suis au plafond. Téléphone dans la bouche. Attends hein.
Ça va? Passe-moi.
Eh ça va, ça va. Attends.
Attention à mon chien là.
Oh mais faites attention avec votre vélo là.
Ah voilà. C'est bon. Toi, tu dois plus être très loin, non? Je t'attends à la gare?
Bah, pas près d'arriver, moi. Encore 15 bornes. Oh, il a sa gueule, attends. C'est un couple qui veut monter. La dame est en fauteuil roulant, mais je crois que c'est pas possible. Il y a un gars qui s'emmêle. Ça s'énerve. Oh, le chauffeur gueule. Bah,
mais qu'est-ce que je fais en fauteuil roulant?
Arrêtez de crier, ça sert à rien. Vous voyez que ça sert à rien de crier. Ça sert à rien.
Ah bah ça y est, bah... Ah bah finalement ils sont pas montés, j'hallucine.
Ah tu m'étonnes. Oh là là, super coucher de soleil sur les montagnes. Tu le vois?
Que dalle.
Hé, je vois ton car. Je te double. Hé, tu me vois?
Que dalle.
C'est dingue, t'es parti avant moi. Enfin c'est surtout naze en fait. Oh, oh le coucher de soleil là. Oh, tu le vois toujours pas? Oh, magnifique.
Non, non, moi ce que je vois, ce sont des routes en construction, tu vois, des routes, encore des routes pour mon putain de car, avec ses putains de bagnoles et ses putains de camions, ta-ta-ta. Une moche route qui traverse des zones avec des boîtes, des parkings, des ronds-points, une route qui tourne, toute défoncée, bah c'est relou, voilà, une route qui n'en finit pas. Oh là là là, et j'y crois pas, y a un camion qui essaye de nous doubler. Oh, punaise. Ça passe. Oh, ça passe pas. Ah bah si, ça passe. Oh. Eh bah, hey, les voilà mes impôts. Et hey, des routes toutes défoncées avec des chauffards dessus qui s'en prennent à des cars en retard. En plus, s'il y a un problème, bah, hey, maintenant les hôpitaux, bah, ils sont trop loin. Et bah voilà, ça m'énerve.
Mais calme-toi, Pince-Mi, t'inquiète, j'ai pris la trousse à pharmacie. Non, et si ça peut te consoler, moi qui prends le train et qui n'ai même pas de voiture, bah, je paye aussi pour tes routes pourries. Bon, bah, je suis arrivé, moi. Pince-Mi. Les phares, là. Je vois ton bus arriver.
C'est pas possible.
Ah, si, on arrive en même temps. T'es parti à quelle heure, déjà?
À 12h45, et toi?
14h10.
Ouais, bah, la prochaine fois, je me fais pas avoir, j'y vais en voiture.
Avec ton vieux diesel pourri?
Non, je louerai une voiture électrique. Le nucléaire, c'est plus écolo.
On entendait du coup un besoin à être plus sain, pour être plus actif encore et plus présent, et allier le travail et la lutte dans ce collectif, mais aussi peut-être ne pas être seul. Vous êtes associé un peu avec tous ceux qui luttent sur le territoire, forcément.
Bah, de fait, on est en lien avec l'ensemble des personnes, des collectifs qui luttent dans le même sens pour la défense du service public. Voilà, on n'a pas fait la liste à la Prévert, mais on est tous les experts de notre quotidien et on le ressent tous les jours, ces difficultés à vivre sur le territoire. Donc oui, on est en lien avec notamment les jeunes qui se mobilisent maintenant pour le climat, parce que ça nous semble un combat qui est vraiment fortement lié, notamment aujourd'hui, puisque notre combat sur le train, ce n'est pas un combat d'arrière-garde. On ne veut pas garder quelque chose. Ce n'est pas une ligne historique, ce n'est pas une ligne touristique qu'on veut garder. C'est une ligne qui peut permettre le tourisme, mais c'est une ligne aussi qui permet la vie des habitants. Enfin, comme le disait le slogan historique de la ligne de vie, ligne de dit, cette ligne, c'est vraiment une ligne de vie et elle sera d'autant plus importante dans les années qui viennent. En tout cas, nous, c'est le constat qu'on fait. Alors qu'on va rentrer dans une période où certainement l'énergie sera plus chère, que les transports en voiture individuelle vont devenir de plus en plus compliqués avec l'augmentation des prix de l'énergie et la baisse certainement de la capacité à avoir du pétrole. Donc si on n'a pas ces lignes de transport en commun qui nous permettront de rester en lien avec les agglos et le flux national et mondial, on ne pourra plus vivre sur nos territoires. Donc c'est un combat d'avenir qu'on a aujourd'hui, et c'est un combat pour que nos régions elles puissent résister aux chocs qui viennent.
Merci à vous deux pour le collectif Garanou. Vous avez aussi sondé un peu la population.
Oui, on n'est pas que quelques-uns à penser et à défendre ces idées-là. Donc vous allez entendre par le micro-trottoir qui vient le sentiment un peu de la population qu'on a interrogée dans les dernières semaines.
Oui, alors la semaine dernière, on est allé traîner sur le quai de la gare de Die, tout simplement, parce que voilà, tous nos beaux discours risquaient d'être battus en brèche par la réalité. Et justement, un train entré en gare avec un quart d'heure de retard. Je m'attendais donc à des usagers excédés, pris en otage, et je me décidais à les provoquer un peu pour le spectacle. C'est la radio, c'est le spectacle. Donc justement, voilà une dame qui s'approche et je lui demande si le train, c'est pas pour les complexer de la bagnole. Et elle me répond quoi ? Elle me répond non. Et quoi ?
Et voilà, c'est quand même vachement plus agréable les trajets en train avec les enfants.
Et donc si par exemple si le bus était gratuit et le train 1 euro, vous choisiriez quoi ?
Je choisirais le train, clairement.
Ah, cette gentillesse et ce bon sens de façade, je me démonte pas et je demande à cette usagère en colère son avis sur une info un peu inventée, il est vrai. Madame, on entend parler d'un projet de disparition de la ligne ferrée, d'un projet qui mettrait des pistes cyclables ou une autoroute à la place. Lequel des deux préfériez-vous ?
Je préfère que le train soit maintenu, que les voies soient maintenues, qu'elles soient entretenues, qu'elles soient conservées, améliorées, voilà. Que les horaires des trains soient respectés, que les personnels de la SNCF soient respectés.
Bon, elle ne me montre pas trop sa colère, mais comme elle parle de personnel, je vais trouver Monsieur C, agent de la gare de Die. Monsieur C, agent SNCF, donc privilégié, qui mange du caviar tous les matins sur le dos des contribuables et qui en fout pas une ramée. Bref, pour lui, la belle vie. Alors, travailler à la SNCF, est-ce que c'est vraiment la belle vie ? Non, c'est pas la belle vie ?
On a vraiment l'impression d'être sur le Titanic en ce moment. Et on a beaucoup de mal à recruter parce que, de toute façon, les gens, quand ils voient les conditions de travail, ils sont effarés, et contrairement à ce qu'on raconte à beaucoup d'endroits. Et du coup, on a beaucoup de mal à recruter et beaucoup de mal à garder les gens.
Donc, si on privatisait, ça marcherait mieux ?
Alors, privatiser, ouais, il y en a qui ont essayé et puis ils se rendent compte au final que ça marche pas si bien que ça et que c'est compliqué. Mais on est déjà privatisé, enfin, parce que la SNCF, c'est une holding qui a beaucoup d'intérêts sur la route. Et donc, on a déjà une concurrence en interne qui fait du dégât. Donc c'est compliqué et je descendre encore le niveau de la privatisation, je vois plus quoi.
Et voilà, il est pas content, il râle le fonctionnaire parce que C'est quoi en vrai aujourd'hui travailler à la SNCF? C'est quoi le problème?
Le problème qu'on a, c'est des problèmes d'entretien. On trouve plus grand monde pour... on a des problèmes de personnel. Il y a des recrutements à la MPE, à Pôle emploi, etc. Il y a des recrutements. Mais les gens qui sont en capacité de tenir les postes, parce qu'il faut connaître beaucoup de règlements, etc., c'est à responsabilité. On a une soixantaine de kilomètres, voire plus, à gérer avec des passages à niveau dedans, des filets chutes de rochers, des choses comme ça. Donc c'est un métier très technique. Et les gens qui ont la capacité, maintenant, préfèrent aller dans le privé, puisqu'ils ont déjà des meilleures payes. La sécurité de l'emploi, elle y est plus chez nous. On a le 27 décembre, des décrets sont passés pour qu'on puisse être licencié avec des conventions inférieures à la convention normale. Donc ça veut dire qu'ils préparent des licenciements massifs. Et donc on a ça. Donc on n'a plus la sécurité de l'emploi. Les payes sont meilleures et on n'a pas de lisibilité sur nos emplois du temps parce qu'on est soumis à la continuité de service. On est soumis aussi, il n'y a que certaines personnes qui peuvent tenir certains postes. Et comme on manque de personnes, on commence à avoir, depuis la loi El Khomri, on commence à avoir des séries assez longues, on commence à être de plus en plus loin de chez nous, et puis on peut être commandé, ça directement, on l'a expérimenté sur nous, on peut être commandé une heure avant la fin de service. Donc c'est-à-dire qu'une heure avant la fin de service, si je fais 4h midi, le lendemain, on peut me dire, ben, tu vas faire 17h 1h, puis le lendemain 4h midi, donc on n'a pas de visibilité, ni samedi ni dimanche, donc on ne sait plus comment vivre en famille. Donc beaucoup de gens, on commence à avoir énormément de démissions, ce qu'on ne voyait jamais avant. Mediapart a sorti un article sur le fait que la SNCF ne communique plus sur les suicides en entreprise depuis 2011, parce que depuis 2011, le chiffre des suicides annuel est l'équivalent de ce que France Télécom, enfin Orange, avait sur la période 2006-2009. Donc on commence à avoir des sacrés trucs avec des choses très très, pour vous donner l'ambiance qu'il y a, très perverse, c'est-à-dire que comme un suicide, il n'y a pas de témoin, ce n'est pas reconnu comme un accident de travail ou des choses comme ça, ce qui fait qu'il n'y a pas d'indemnité pour la famille, on essaye d'écarter tout ça, et voilà, donc bon, c'est un peu compliqué.
Bon, ok, ça n'a pas l'air si tranquillou, mais bon, quand même, monsieur C, tu penses un peu qu'à ton nombril, là. La planète, par exemple, t'y penses?
Oui, là, il y a un impact environnemental qui est énorme. Et ça, on a la maîtrise de ces choses-là, parce qu'on a déjà les infrastructures. Ça serait bête, quand on n'a pas l'infrastructure, créer une infrastructure peut avoir des coûts environnementaux. Mais quand on l'a, qu'elle y est, la laisser se dégrader, c'est déplorable. On a les choses, ça peut nous permettre de dégager, d'avoir plus de capacité, de faire circuler tout un tas de choses. Et puis, nous, on aimerait bien le retour des marchandises. On est en capacité de faire rouler plus de trains. Donc après, c'est des décisions. Si on met plus de trains, plus d'horaires, ben les gens ont des facilités de mobilité, ben ils vont spontanément plus vers le train.
On identifie donc comme frein la gangrène managériale de la SNCF, le manque de volonté politique, ça c'est moi qui l'ajoute, et puis le manque de moyens. Mais je lui demande tout de même s'il est normal que ce soit plus cher de prendre le train que sa bagnole. Il ne faudrait pas que le train soit moins cher, voire gratuit, non?
Pour moi, le coût, enfin, les billets gratuits, c'est une très bonne idée. Moi, essentiellement, ça me va bien parce que, en fait, on a déjà payé le chemin de fer plusieurs fois, dans la mesure où on a abondé pour créer un chemin de fer. Après, dans un deuxième temps, quand on a nationalisé, parce que le privé disait ben, on s'en sort plus, on ne fait pas assez de bénéfices, on a nationalisé, donc on a remis de l'argent. Et évidemment que pour moi, normalement, les transports comme ça, collectifs, devraient être gratuits. Et les guichets seraient quand même maintenus parce qu'il y a des besoins de renseignements pour créer les voyages par rapport à l'étranger, ou etc. Donc ça ne change rien au niveau des renseignements et du nombre de personnes qui travailleraient. Mais ça permettrait à beaucoup de gens de laisser la voiture, et beaucoup ici sur la vallée, on a quand même beaucoup de gens qui sont en éco-solidaire. Alors déjà, il y a une réduction, avant c'était 90% de réduction, maintenant c'est tombé à 70% parce que bon, la région a plus voulu, Wauquiez a plus voulu, et du coup les prix et les tarifs augmentent. Il y a de plus en plus de tarifs assez incompréhensibles, où même nous on n'arrive pas à suivre, surtout que c'est pas notre cœur de métier, donc et qu'on a de moins en moins de formation là-dessus, donc on n'arrive pas à suivre les choses. On tient sporadiquement des guichets, donc ça ne nous permet pas de suivre un petit peu les évolutions, les choses comme ça. Il faut vraiment des personnes dédiées. Et voilà, donc le côté gratuit, moi je trouve que ça serait carrément normal. C'est un peu comme les autoroutes, on les a payées, on a payé tout. Donc reste des frais de fonctionnement qui sont liés à l'entretien. Alors, une participation, pas de participation, j'en sais rien. Si les gens demandent des prestations hautes, du luxe, des trains avec des boîtes de nuit, ou etc., comme les TGV, ou, bon, ça se comprend que ça puisse être payant. Mais à partir de là, le reste, oui, non. Normalement, pour moi, ça devrait être gratuit, oui.
Bon, je me suis laissé avoir par Monsieur C. Je retourne vite voir mon usagère en colère, là, parce que... Alors, le train gratuit, ça fait rêver, ça serait juste raisonnable et intelligent, non ?
Bah oui, ça me paraît être un service public quand même assez indispensable. Moi, je suis, en tant qu'ancienne lyonnaise et parisienne, et qui apprécie énormément de vivre ici, je suis assez convaincue que la centralisation et l'urbanisation à outrance ne sont pas les bonnes voies. Et que voilà, qu'on a beaucoup plus d'avenir à développer, développer des territoires ruraux comme ici, développer des activités ici, quitte à favoriser voilà plein de solutions comme le télétravail, etc. Et donc ouais, moi je serais pour effectivement que le train soit un service public gratuit ou quasi gratuit au même titre que les médiathèques par exemple.
Sans train, vous habiteriez ici ou vous seriez allé ailleurs ?
Ce serait beaucoup plus compliqué. Non, je ne serais sans doute pas venu ici sans train. Ouais.
Voilà, donc à vous de faire la conclusion. Hein. La première qui me vient à l'esprit, c'est pour que Dix vive, vive le train, mais je pense qu'il y en a beaucoup d'autres.
J'aime les trains.
Ça, c'est vrai.
Gare à vous.
Gare à vous, gare à nous, sur www.gareanou.org.
J'aime les trains.
Moi j'aime chanter.
J'aime danser.
Rejoignez-nous, gareanou.org.